Vous écoutez RTL.
Le journal avec vous, Jérôme Florin, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le père de Neymar douche les espoirs des supporters du PSG.
Il affirme que son fils, blessé, ne participera pas au match retour contre le Real. L'attaquant brésilien serait toujours, selon lui, immobilisé pour au moins 6 semaines et il ne jouera pas, ça c'est une certitude, ce soir contre Marseille. Contre la réforme de la SNCF, les syndicats se donnent du temps. C'est finalement le 15 mars qu'ils annonceront quand et comment ils feront grève. Dans l'actualité également, l'incroyable double vie de ce père de famille du Nord, confondu par son ADN, il serait impliqué dans une vingtaine de viols dans la région. La police le recherchait depuis 30 ans.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous surfez sur la vague de froid.
Et les pays européens rivalisent d'inventivité pour la qualifier, cette vague de froid.
Deux météos justement d'ici 7h.
Pas de dégel dans le nord, mais un ciel bleu. Moins 1 degré prévu cet après-midi au Cateau Cambrésy. Mais avec le vent, le ressenti sera de moins 9.
RTL Matin.
Alors, jouera pas. Eh bien, Neymar ne jouera pas. Mardi prochain contre le Real, c'est son papa qui le dit.
Son père est agent qui s'est confié cette nuit à la télévision brésilienne. Il affirme que son fils sera absent au moins 6 semaines à cause de son entorse à la cheville et de sa fissure osseuse. La direction du PSG continue pourtant d'entretenir le mystère. S'il y a une certitude en revanche, c'est que le Brésilien ne jouera pas ce soir contre Marseille en Coupe de France au Parc des Princes. C'est le deuxième classico depuis dimanche. Éric Silvestro, l'entraîneur parisien aimerait bien qu'on lui parle un peu d'autre chose.
Oui, s'il est resté courtois et souriant, Unai Emery, l'entraîneur du PSG, a fini par s'agacer des questions récurrentes sur la star brésilienne et cette prétendue opération favorable à la Seleção en vue de la Coupe du Monde, mais pénalisante pour le club de la capitale.
Et maintenant, le plus important, c'est nous. Et Neymar, c'est le premier qui veut jouer tous les matchs, les matchs contre Real Madrid. Il est très, très concentré pour ça. Après, si la blessure ne permet pas qu'il joue, on va passer pour le prochain.
Alors évidemment, Neymar est forfait ce soir pour le PSG. Épisode 2 en quart de finale de la Coupe de France. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour le défenseur marseillais Adil Rami. Avide de revanche, bien sûr, et contrarié par les réclamations incessantes de l'homme qui vaut 222 millions d'euros.
C'est ça qui m'agace de ne pas pouvoir faire un match de football et pouvoir aller au contact. Ce qui est arrivé à Neymar, on ne peut pas jubiler d'un malheur d'un joueur. C'est bien que des joueurs comme ça soient en Ligue 1. Mais moi, j'en veux plus à l'arbitre de couper le jeu toutes les 30 secondes. Le football et l'arbitre ne doivent pas rentrer dans ce jeu-là et les joueurs non plus.
Entre deux communiqués médicaux sur la cheville de Neymar, place au foot donc ce soir au Parc des Princes. L'OM qui n'a plus battu le PSG depuis novembre 2011 croit cette fois en son étoile.
Éric Silvestro, toujours en Coupe de France, l'incroyable aventure des Herbiers, le club de National premier qualifié pour les demi-finales après avoir éliminé Lens hier soir au tir au but, 4 tirs à 2. À suivre ce soir, donc PSG-Marseille à 21h et plutôt à 18h30, Chambly recevra Strasbourg.
RTL, 6h33, reculer pour mieux sauter. Les syndicats temporisent avant d'appeler à une grève unitaire contre la réforme de la SNCF.
D'habitude, on faisait grève avant et on discutait après. Changement de méthode, les syndicats, CGT en tête, annonceront leur décision le 15 mars. Ils veulent aussi laisser passer la mobilisation des fonctionnaires le 22. La perspective d'une grève dure est diversement appréciée par les voyageurs, comme ceux que vous avez rencontrés. Gare Saint-Charles à Marseille, Étienne Baudu.
Alors évidemment, un peu d'usagers sont favorables à une grève, mais certains sont solidaires avec les cheminots et la défense de leurs droits acquis, à l'image d'Anaïs.
Ils défendent leurs droits et après, effectivement, en tant qu'usager, c'est sûr qu'il va être pénalisé tout pareil, en tout cas dans son quotidien, mais s'il y a une grève, quoi. Malgré tout, je peux les comprendre et je reste solidaire de la SNCF, quoi.
Solidaire, Farida ne l'est pas. Elle considère, elle, que les droits des cheminots sont devenus des privilèges.
Je suis peut-être pas d'accord avec tout ce que le gouvernement propose, mais bon, les cheminots doivent faire des efforts comme tout le monde. Et oui, il y a une appréhension sur les mouvements de grève qui va venir. Hein. Mais bon, après, on fait avec. Hein. La SNCF, on est habitué au retard et aux grèves, donc ça changera pas grand-chose.
Et justement, Monique, elle, vu le service rendu, elle se demande si une réforme de la SNCF et l'ouverture à la concurrence ne serait pas la solution. Mais de là à supprimer le statut des cheminots.
Si vous voulez, je ne vais pas taper sur des salariés comme moi, mais au-delà du statut, je ne suis pas sûre que changer le statut des cheminots change quelque chose dans ce que reprochent les usagers à la SNCF actuellement, c'est-à-dire un manque de fiabilité totale. Ce n'est pas ça qui va, à mon avis, qui va changer les choses.
En tout cas, les usagers rencontrés attendent tous avec inquiétude les premiers mouvements de grève.
Étienne Baudu, Disneyland Paris s'agrandit. Mickey annonce 2 milliards d'euros d'investissement pour étendre le parc de Marne-la-Vallée avec 3 nouveaux sites consacrés l'un à Star Wars, l'autre à la Reine des Neiges et un autre à Marvel. Les travaux commenceront en 2021. Disneyland Paris, c'est plus de 16 000 emplois directs et indirects.
Il y a les Américains qui investissent et puis les autres qui ferment le robinet.
Comme Ford, qui a décidé de lâcher son usine de Blanquefort près de Bordeaux. Le site fabrique des boîtes de vitesse. Un millier d'emplois sont menacés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, va recevoir à Bercy les élus de la région et les représentants des salariés. Nouvelle journée emploi aujourd'hui sur RTL après les derniers chiffres du chômage qui montrent une stabilité en janvier. L'occasion de s'intéresser intéressés ce matin à cette nouvelle méthode de recrutement employée par cette entreprise de chauffage au bois à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. En lieu et place d'un entretien d'embauche, les candidats doivent se plier à un jeu d'équipe type Fort Boyard. Franck Hanson.
Oui, ils sont 7 enfermés dans une pièce, prisonniers d'une bande de pirates. Ils vont devoir tous réfléchir et travailler ensemble. Leur trésor, un poste de technicien de matériel chauffage. Et les candidats comme Sabine ou Robert jouent le jeu.
C'est l'emplacement d'une clé, c'est pas un code.
Travail d'équipe, c'est important. Il y a un enjeu, il y a le boulot derrière, comment on pourrait décrocher, et c'est le but.
J'ai pas l'impression d'être dans un entretien d'embauche. Donc là, je suis plus dans une mission, on va dire, une mission de sauvetage. C'est original.
Dans l'équipe incognito, il y a aussi Rémi Cosetto, chef d'entreprise, le recruteur, qui observe ses futurs recrues.
Je m'y suis prêté au jeu, mais en même temps, j'ai observé un petit peu les profils de chacun. Le CV, il parle, mais il parle de ce qu'on veut nous faire croire aussi, des fois. Là, on est vraiment en face de l'humain, en face de ses réactions, en face de sa façon de parler, de sa façon d'agir.
On aurait besoin d'un indice, s'il vous plaît.
Un concept qui pourrait choquer certains, mais qui reste très encadré. Devant des caméras, Anne-Sophie Parfond et ses conseillers du Pôle emploi de Neuilly-Mines surveillent le dispositif.
Les conseillères ont une grille d'observation qui leur permet de définir les qualités qui sont recherchées. On les juge dans des situations aussi de stress.
Et les candidats finalistes seront reçus ensuite pour un entretien d'embauche plus classique.
Franck Hanson, la fin de l'état de grâce semble se confirmer pour Emmanuel Macron qui perd 4 points dans le baromètre BVA Orange pour RTL et La Tribune. Le président est à 43% d'opinion favorable derrière son Premier ministre Édouard Philippe qui est à 47%. En bref, à l'étranger, le Saint des Saints a rouvert cette nuit à Jérusalem. Le Saint Sépulcre était fermé depuis 3 jours aux pèlerins. Le lieu le plus saint du christianisme était au cœur d'un bras de fer entre l'Église et les autorités israéliennes. La mairie de Jérusalem voulait taxer une partie des biens immobiliers de l'Église. Décision finalement annulée par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre.
On en vient à cette nouvelle piste qui vient de se dégonfler dans l'affaire Seznec.
Un os avait été retrouvé samedi dans l'ancienne maison de la famille à Morlaix. On avait cru alors à un incroyable rebondissement dans ce fait divers aux allures de feuilleton. En 1924, Guillaume Seznec était condamné au bagne pour le meurtre d'un homme dont le corps n'a jamais été retrouvé. Très vieille affaire donc. Ce week-end, l'ancien avocat de la famille entreprend des fouilles dans la propriété des Seznec. On retrouve un os humain, claironne alors le procureur, peut-être celui de la victime, Pierre Kemner, patatras. Pour les experts, c'est celui d'un animal, d'un bovin. Denis Seznec, le petit-fils du condamné, n'en revient pas qu'on ait pu faire une telle erreur. Et il s'en prend vertement, vous allez l'entendre, à l'ancien avocat à l'origine des fouilles.
Lui, il continue à affirmer des trucs, c'est des os humains. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a manipulation devant le mensonge, ça me dégoûte de voir. Les avocats, ils disaient, c'est à plus croire en rien, parce que c'est pas possible de mentir comme ça. De quel droit il prétend nous représenter alors qu'il ne nous représente pas? C'est hallucinant. Il fait parler que les morts, d'ailleurs. C'est comme si vous dirigez la Banque de France, vous voyez un faussaire qui est en train de parler de la monnaie. Mais c'est pas possible. Comment on peut se faire duper comme ça?
Denis Seznec avec Fabien Randriana Rizoa. Enquête beaucoup plus solide, en revanche, dans le Nord. RTL vous révélait l'information dès hier midi. Un homme a été confondu par son ADN qui le relie à une vingtaine de viols dans le secteur de Maubeuge. 30 ans que la PJ de Lille était sur ses traces. Ce père de famille, habitant respecté du village de Pont-sur-Sambre, aurait sévi aussi en Belgique. Le procureur de Valenciennes doit s'exprimer cet après-midi à 15h.
13 départements du Sud en alerte neige et verglas.
Des Landes aux Alpes-Maritimes en passant par l'Aveyron et le Gard. La neige arrive par l'Espagne. On attend entre 3 et 10 cm en plaine. Le grand froid pour les SDF, le plan grand froid a été étendu. On est passé de 68 à 72 départements. Et malgré les températures inhumaines, il faut encore convaincre certains sans-abri de se mettre au chaud. C'est ce qu'ont tenté de faire hier soir ces bénévoles qui a suivi Peggy Liodeno à Lyon.
Des couvertures, du café ou encore de la soupe, les bénévoles avaient les bras bien chargés hier soir. Pendant plus de 2 heures, avec un thermomètre affichant moins 5 degrés, ils sont allés à la rencontre des sans-abri, avec même parfois des solutions d'hébergement pour la nuit, comme pour Eddy, qui a pu dormir à l'hôtel.
Ça fait plaisir, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent à nous, qu'on va pouvoir avoir une nuit saine au moins au chaud, pouvoir se doucher, être propre au moins demain. Ça fait plaisir.
Tout cela grâce à la générosité d'Arnaud, qui a voulu venir en aide aux plus démunis.
Enfin, je me dis que si tout le monde le faisait, en fait, il n'y aurait personne qui serait dehors. Et c'est cool, je suis content qu'ils puissent être au chaud, qu'ils prennent une douche.
4 autres SDF ont pu être hébergés. Une générosité qui touche Jean-Marc Roffa, le président de l'association. Maintenant, il attend des réponses de la part de l'État.
Moi, ce qui me révulse, c'est qu'un sans-abri est mort de froid devant une église à Valence, alors que ça fait un an que je réclame d'ouvrir des annexes de lieux de culte, des bâtiments publics, des entreprises.
Depuis le début de l'hiver, l'association a déjà trouvé un logement pour 4 sans-abri et depuis quelques jours reçoit de nombreuses propositions d'hébergement venant de toute la France.
Reportage de Peggy Lieudenot à Lyon pour RTL.
Dans le journal de Jérôme Florin. Merci Jérôme et à